Le journal Marc Fauvel, bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, elles ne se tairont plus. Les stars d'Hollywood accusent leur ancien bourreau, le producteur de cinéma Harvey Weinstein, accusé de viol et d'agression sexuelle par une douzaine d'actrices désormais. D'Angelina Jolie à Judith Godrèche, la loi du silence est peut-être en train de se fissurer. L'indépendance attendra. Le président de la Catalogne fait un geste en suspendant la déclaration d'indépendance de sa région. Ce matin, c'est la réponse de Madrid qu'on attend désormais. On ira sur place. Comment mieux payer les agriculteurs ? Emmanuel Macron livre ses premières pistes. Aujourd'hui, lors des états généraux de l'alimentation, cela passera sans doute par des hausses de prix pour les consommateurs. Dans 20 minutes, une femme qui monte à droite, elle était jupéiste. La voici dans la roue de Laurent Wauquiez. C'est Virginie Calmels qui est votre invitée, Nicolas.
Et elle dialoguera avec vous à partir de 8h40. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000 et via Twitter avec le mot-clé le 79 Inter.
Dans ce journal également, Nicolas Hulot qui broie du noir et envisage de quitter le gouvernement. À discrétion signée Karine Bécard, le préfet du Rhône, débarqué par le ministre de l'Intérieur. Il paye les dysfonctionnements qui avaient abouti à la remise en liberté du tueur de Marseille. Le foot, les Bleus qualifiés pour le Mondial, tout comme l'Argentine grâce à un triplé de Messi cette nuit. Et puis l'exposition événement Gauguin à découvrir à partir d'aujourd'hui au Grand Palais à Paris. Intimidation, viol, agression sexuelle, jusqu'où ira l'affaire Weinstein ? La presse américaine révèle donc de nouveaux témoignages contre celui qui pendant des années a fait la pluie et le beau temps sur Hollywood. Le producteur Harvey Weinstein, l'homme aux 75 Oscars. Visiblement sa chute, le week-end dernier, a servi d'électrochoc. Les témoignages d'actrices se multiplient. Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Judith Godrèche, Emma Decaune, toutes racontent quasiment la même histoire, les mêmes scènes dans des palaces en marge des festivals. Après des années de silence, Hollywood a décidé enfin de parler. Grégory Phillips.
L'actrice française Emma Decaune témoigne dans le New Yorker. La comédienne raconte un rendez-vous au Ritz à Paris en 2010, dans une chambre du palace. Le producteur s'absente puis revient entièrement nu. Emma Decaune le décrit comme un prédateur avec un animal sauvage. Dans le New York Times, autre témoignage, autre comédienne française, Judith Godrèche décrit un rendez-vous à Cannes en 96. À l'époque, c'est une jeune actrice. Harvey Weinstein tente de la convaincre de lui faire un massage. Refus, claquement de porte. Une cadre de Miramax appellera plus tard l'actrice pour lui dire de se taire si elle veut continuer à avoir des rôles. À chaque fois, Weinstein menace et cherche à intimider, comme en mars 2015, lors de cette rencontre avec le top modèle Ambra Gutierrez. Enregistré à son insu, Harvey Weinstein explique qu'il va se doucher, qu'il est quelqu'un d'important et ordonne à la jeune femme d'entrer dans sa chambre d'hôtel. Le document sonore est aujourd'hui entre les mains de la police de New York. Le scandale touche aussi les plus grandes actrices hollywoodiennes. Gwyneth Paltrow, Rosanna Arquette, Angelina Jolie disent avoir été harcelées. Cette dernière a pris la décision de ne plus jamais travailler avec le patron de Miramax. L'actrice italienne Asia Argento affirme au New Yorker que le producteur l'a violée dans un palace de la Côte d'Azur en 1997. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
L'affaire Weinstein qui embarrasse également le camp démocrate dont il était l'un des donateurs réguliers et particulièrement généreux. Barack Obama se dit écœuré, tout comme Hillary Clinton par ses révélations.
Autre grand titre ce matin à l'étranger, cette réunion de crise dans une heure à Madrid.
Quelle sera la réplique ? Le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy réunit en urgence son gouvernement au lendemain de la vraie fausse déclaration d'indépendance de la Catalogne. Hier, le président de la région, Carles Puigdemont, a fait un geste d'apaisement en suspendant l'indépendance de sa région qu'il venait pourtant de proclamer. Pas sûr que cela suffise à renouer les fils du dialogue avec Madrid. Sur place, Marie-Hélène Ballestero.
Le gouvernement central attendait avec impatience la déclaration du président catalan Puigdemont avant de se prononcer. Plus d'une heure après la fin de cette intervention, la vice-présidente du gouvernement espagnol Soraya Sáenz de Santamaría est montée au créneau.
Après être allé aussi loin et après avoir embarqué la Catalogne dans le climat de tension le plus extrême de toute son histoire, le président Puigdemont vient de plonger sa communauté autonome dans la plus grande incertitude. Le discours qu'il a prononcé est le discours de quelqu'un qui ne sait pas où il est, vers où il va, ni avec qui il souhaite y aller. Ni M. Puigdemont, ni personne ne peut prétendre imposer une médiation sans revenir avant dans la légalité et la démocratie.
Une allocution télévisée courte mais ferme qui laisse entrevoir quelle pourrait être l'attitude désormais du gouvernement central. L'application de l'article 155 de la Constitution semble de plus en plus probable. Cela permettrait au gouvernement espagnol de suspendre dans quelques jours toute ou seulement une partie de l'autonomie de la Catalogne. Hier soir, Rajoy s'est entretenu avec les leaders de Ciudadanos et du Parti Socialiste. Ce matin, il va présider un conseil des ministres exceptionnel. Et cet après-midi, dès 16h, il prendra la parole devant les députés espagnols. Il devrait dévoiler sa feuille de route pour faire face aux défis catalans. Madrid, Marie-Hélène Ballestero, France Inter.
Le jour d'après en Espagne, Bernard Guetta y reviendra également juste après ce journal.
8h05, il avait promis des sanctions, elles sont tombées hier soir.
Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb débarque le préfet du Rhône, prié de faire ses cartons dès aujourd'hui, après une série de dysfonctionnements qui ont conduit à la remise en liberté du tueur de Marseille il y a 2 semaines. Ahmed Anachi, en situation irrégulière, avait été arrêté à Lyon pour un vol puis remis en liberté. 2 jours plus tard, il poignardait 2 femmes devant la gare Saint-Charles. Sarah Guibaud.
Ce samedi matin, l'agent de permanence a 2 autres dossiers d'étrangers à gérer. Au centre de rétention, on lui répond qu'il n'y a pas de place et que, je cite, « ça se bouscule au portillon ». Quelques places vont se libérer dans l'après-midi, mais l'agent n'en est pas avisé. Il ne prend pas la peine de rappeler non plus, parce qu'entre-temps, le sous-préfet de permanence est parti à une cérémonie officielle. Il en a pour tout l'après-midi. L'agent n'ose pas le déranger pour lui faire signer une obligation de quitter le territoire. Une mesure dont on comprend de ses déclarations qu'elle lui semble par ailleurs vouée à l'échec. Souvent, les autorités tunisiennes ne répondent pas avant 3 mois. Le délai légal est dépassé et la personne libérée. Voilà un dysfonctionnement qui aura donc coûté son poste au préfet du Rhône. Le ministre de l'Intérieur annonce aussi des mesures générales pour faciliter les procédures d'expulsion. 150 recrutements, les préfectures auront accès aux fichiers des centres de rétention par exemple. Gérard Collomb doit aussi présenter bientôt son projet de loi sur l'immigration. Des textes qui se succèdent presque au même rythme que les lois antiterroristes. Le dernier date de 2016.
Le limogeage du préfet sera acté ce matin en Conseil des ministres. On fait sauter un préfet pour éviter qu'un ministre assume, réagit ce matin à droite Laurent Wauquiez. C'est la quadrature du cercle appliquée aux assiettes. Comment manger mieux sans se ruiner tout en payant suffisamment les agriculteurs? C'est tout l'enjeu des états généraux de l'alimentation lancés ces dernières semaines. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui en annoncera les premières mesures. L'annonce la plus attendue par le monde agricole concerne le prix payé aux agriculteurs. Il serait désormais fixé en fonction de leur coût de revient, quitte à voir les prix grimper dans les rayons des supermarchés. Première étape saluée par la FNSEA, par la voix de sa présidente Christiane Lambert, mais à condition que les grandes surfaces jouent vraiment le jeu.
Nous avons toujours appelé à remettre la construction des prix en marche avant. Partir des coûts des producteurs français pour construire des prix à la française, parce qu'on n'a pas les mêmes coûts de production que les Polonais, les Indiens, les Chinois, avec des conditions de production premium quand on est en France. Donc intégrer ces coûts dans les contrats et que les industriels puissent nous rémunérer à des prix rémunérateurs qui couvrent nos coûts de production. Mais c'est insuffisant. La clause de renégociation des contrats pour les industriels doit faire partie du package global, tout comme l'encadrement des promotions, puisqu'aujourd'hui il y a abus sur les promotions. C'est plus des promotions, c'est des braderies, quand 60% des produits sont vendus à prix complètement rabotés et bradés.
Christiane Lambert avec Manuel Ruffez. Voilà donc pour les premières annonces. Mais un homme, aujourd'hui, semble avoir du mal à la digérer, pas assez ambitieuse, estime-t-il. C'est Nicolas Hulot. C'est lui qui avait pourtant lancé ses états généraux. C'est lui qui sera aux côtés d'Emmanuel Macron cet après-midi à Rungis. Mais le ministre en charge de la transition écologique a le blues. Il envisage même une sortie du gouvernement. Indiscrétion signée Karine Bécard.
Nicolas Hulot n'est pas du tout satisfait de la tournure que prennent ses états généraux de l'alimentation. Il espérait un vrai débat de société, comme le Grenelle de l'environnement en avait été un il y a tout juste 10 ans, un débat qui permette d'inventer de nouvelles manières de produire et de consommer, sauf qu'à l'issue de la première étape, il juge le bilan pour l'instant très insuffisant. Autrement dit, la partie que doit jouer cet après-midi le président Macron s'annonce assez compliquée. Va-t-il réussir à relancer le processus de réflexion sur l'alimentation et du coup retenir Nicolas Hulot qui avait fait de ses états généraux une des conditions de sa participation au gouvernement? En tout cas, la vedette de l'écologie aura droit également à un dîner de travail ce soir à l'Élysée en tête-à-tête avec le président, un privilège évidemment rarement accordé. Même l'entourage de Nicolas Hulot reconnaît que depuis 5 mois, Emmanuel Macron fait tout pour le ménager.
Nicolas Hulot sur tous les fronts. Hier, les députés ont adopté sa loi qui vise à stopper la production d'hydrocarbures en France d'ici 2040. Et après le pétrole, voici le béton. Il annonce ce matin dans Le Parisien aujourd'hui en France. Nicolas Hulot souhaite taxer les bétonneurs et les promoteurs immobiliers pour mieux protéger les terres agricoles. Il avait été repoussé, mais cette fois c'est officiel. Le prélèvement de l'impôt à la source entrera bien en vigueur en janvier 2019. L'impôt sur le revenu sera donc prélevé directement sur les bulletins de paie à la fin de chaque mois.
Inter, 8h10, fini de rire. Le poisson clown souffre lui aussi du réchauffement climatique.
On le connaît tous grâce à Nemo, le personnage du dessin animé, mais le poisson clown a de plus en plus de mal à vivre et à se reproduire. En cause, le réchauffement des océans qui modifie ses abris naturels que sont les anémones. C'est une équipe du CNRS qui a mené l'enquête. Sophie Bécherel.
Quand la température de l'océan monte à quelques dixièmes de degrés près, les anémones de mer blanchissent. Comme les coraux, ces animaux vivent en symbiose avec une algue. C'est elle qui les colore. Quant aux poissons clowns, ils sont les locataires bénéfiques de l'anémone. Ils s'abritent des prédateurs dans les tentacules. Ils y pondent une à deux fois par mois, mais ils la protègent aussi. Pendant le dernier épisode d'El Niño, au cours duquel l'océan Pacifique s'est réchauffé, une équipe du CNRS en Polynésie a suivi 13 couples de poissons clowns pendant 14 mois avec leur anémone. À Mouréa, la moitié des anémones hôtes ont blanchi et l'impact pour les poissons clowns s'est révélé majeur, explique l'un des biologistes impliqués, Ricardo Beldade.
Quand les anémones étaient blanchies, les poissons clowns étaient plus stressés et ils ont eu aussi une diminution des taux des hormones liées à la reproduction. Ils ont presque arrêté de pondre des œufs.
La fécondité a chuté de 73% en même temps qu'on observait une baisse des hormones de la reproduction, testostérone et œstradiol. En revanche, l'hormone du stress a fortement augmenté. À présent, les biologistes veulent comprendre pourquoi la moitié des anémones n'a pas blanchi et quels sont leurs mécanismes de défense et de résilience.
Et pour tout savoir sur Nemo et ses congénères, dossier multimédia sur franceinter.fr. Salut, je ne sais pas qui nous parle.
Je ne sais pas non plus, mais c'est tout à fait bizarre dans notre casque. Je pense que c'est un point sur la route qui est en train de passer un peu en avance dans le journal de 8h. Allez, les amateurs de foot peuvent déjà cocher la date, le 14 juin prochain.
Début de la Coupe du Monde en Russie, ce sera donc avec les Bleus. Ils ont décroché hier soir leur qualification directe en battant péniblement les Biélorusses 2-1. Mission accomplie. Bonjour Jérôme Cadet.
Bonjour.
La prochaine étape, c'est le tirage au sort.
Oui, le 1er décembre, au Kremlin, à Moscou, la France connaîtra ses trois adversaires du premier tour et les Bleus devraient être tête de série grâce à leur succès d'hier soir, c'est-à-dire protéger et donc éviter d'entrer le Brésil, l'Allemagne et consorts.
Mais l'autre info de la nuit, attention, sortez les boules qui est, c'était ça.
Messi, genio. Pero que viva el fútbol! Argentina,
le miracle Messi et les pastilles pour la gorge qui vont avec. Auteur d'un triplé cette nuit, le petit génie argentin a sauvé son équipe face à l'Équateur. Il l'envoie du même coup à la Coupe du Monde. Des stars, il y en aura d'autres, Jérôme, en Russie.
Oui, je vais faire plus sobre, mais puisque Messi et Ronaldo se suivent à la trace, le Portugais sera bien en Russie. Le Portugal, vainqueur de la Suisse. Hier soir, 2-0, les Suisses devront en passer par les barrages, tout comme l'Italie et la Croatie. Coupe du Monde que jouera également la Colombie, du Monégasque Falcao et l'Uruguay du Parisien Cavani. En revanche, le Chili restera à la maison, tout comme les États-Unis, victimes de leur défaite face à Trinidad et Tobago et de la victoire du Panama, qualifié pour la première fois de son histoire grâce à un but validé alors que le ballon n'avait pas franchi la ligne, erreur d'arbitrage fatale aux Américains.
Enfin, il y a quelques points d'interrogation, on ne connaît pas toutes les équipes.
Hein. Oui, encore 9 tickets à distribuer, 4 pour l'Europe lors de matchs de barrage, 2 lors de barrage entre équipes d'Amérique latine et d'Océanie, Pérou, Nouvelle-Zélande, Honduras, Australie et 3 places pour le continent africain pour l'instant. Tunisie, Sénégal et Maroc sont favoris, verdict le mois prochain.
Merci Jérôme Cadet. C'est l'exposition événement de cette fin d'année, plus de 200 œuvres signées Gauguin, réunies à partir d'aujourd'hui au Grand Palais à Paris. L'originalité de cette exposition, c'est qu'elle va au-delà de la peinture avec également des gravures, des céramiques, des dessins. C'est ce Gauguin alchimiste qu'Isabelle Pasquier nous fait découvrir.
Avec un peu de boue, on peut faire du métal, des pierres précieuses, avec un peu de boue et aussi un peu de génie. Voilà comment Gauguin se voyait en alchimiste, habité par ce désir violent de transfigurer le réel. Et l'exposition s'approche du processus de création de Gauguin.
Je suis un grand artiste. Je le sais, c'est parce que je le suis que j'ai tellement enduré de souffrance pour poursuivre ma voie.
Dans l'exposition des chefs-d'œuvre relatifs à la période arlésienne, à Pont-Aven, aux îles, mais loin des clichés sur l'exotisme de la peinture de Gauguin, l'exposition montre des toiles où derrière le paradis tropical planent des ombres morbides. Claire Bernardi, commissaire de l'exposition.
On a beaucoup d'œuvres réalisées par Gauguin qui laissent planer l'ombre de l'esprit des morts, notamment cet esprit qui hante les Tahitiens et qui hante aussi la peinture de Gauguin. Les Tupapos, représentés souvent sous la forme d'une femme âgée qui semble hanter les rêves de sa vainée, de sa compagne, et qui semble être comme l'esprit de la mort qui plane sur ses œuvres qui sont loin d'être la plénitude espérée.
Aveu de la désillusion de Gauguin venu chercher un état sauvage primitif, sa compagne, Théamana, qui a juste 14 ans, il la peint avec la robe que les missionnaires imposaient aux femmes des îles, loin de la sensualité des corps alanguis, dans une innocence perdue.
La plupart de ses œuvres n'avaient jamais été présentées en France. Gauguin, l'alchimiste, à partir d'aujourd'hui donc et jusqu'au 22 janvier au Grand Palais à Paris. Enfin, un petit morceau de légende revient en France. Un ex-Pink Floyd en tournée chez nous, ce n'est pas tous les jours. Roger Waters, l'un des fondateurs, bassiste, chanteur du groupe, annonce 3 dates en France en mai et juin prochain. Waters, 74 ans, passera à Lyon, à Paris et à Lille. Les billets seront mis en vente mercredi prochain. Nicolas, si vous voulez me faire un cadeau, vous pouvez.
Alors on y va ensemble, si vous
voulez. Avec grand plaisir.
Merci Marc.